Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin.
Eli Rubin. Eli Rubin.
Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin. Eli Rubin.
Ça va être désossé ce soir dans le dernier rendez-vous en direct sur France Culture. Ce sera le comble. Une émission freestyle mais maîtrisée avec toutes celles et ceux que vous avez entendus et supportés au bon sens du terme pendant 7 ans. Il sera des questions de chronique, de son du jour, de live, de questionnaire du lundi, de je vous raconte et même comme d'habitude de Marguerite Duras et du Québec. Avec par ordre d'apparition, Aïssa Tou,
Zoé Sfez, Xavier Martinet, Raphaël Bourgois, Benoît Lagan, Mathieu Conquet, Xavier Delaporte, Thomas Clair, Manu Farine, Claire Maillot, Jean-Marc Lalanne, Émilie Chaudet, Elsa Béron. Et un guest, Flavien Berger.
Sans oublier Aïssa Tou N'Dói qui fut et qui reste la voix de l'émission. Mais d'abord, place au journal de la culture que l'on ouvre bien sûr avec le dernier son du jour de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, c'est le dernier.
C'est mon dernier son du jour, c'est un son musical car vous savez que j'aime la musique. Et c'est un son un peu crépusculaire, le son des génies qui s'en vont la tête haute. Car finalement, le rendez-vous, la radio, le fait de faire vivre ensemble des voix, des sons, c'est une œuvre, une équipe. Nous étions une sacrée équipe. J'ai donc décidé, pour ouvrir cette dernière émission, de tenter une comparaison carrément très flatteuse, carrément au-dessus de nos moyens, disons-le totalement, puisqu'il faut toujours viser haut. J'ai donc choisi, et les fans de Beatles l'auront reconnu, notamment Mathieu Conquet derrière moi, c'est la toute dernière partie de la toute dernière chanson des Beatles qui était un medley sur l'album Abbey Road, qui se termine donc après un long passage musical sur cette phrase « And in the end, the love you take is equal to the love you make » et à la fin, l'amour que tu prends est égal à l'amour que tu fais. Ce sera donc mon mot de la fin.
Merci Zoé, merci pour cette année. Maintenant, le dossier du jour et nous retrouvons Xavier Martinet. Vous savez, c'est la fois infrabasse du rendez-vous et du journal de la culture pendant quelques années. Un avis de disparition ce soir, Xavier.
Oui, bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Donc, c'est un avis de disparition bien plus qu'une nécrologie puisque c'était le rendez-vous ou presque. La disparition du rendez-vous est aussi une fête, vous l'avez entendu, pour sa dernière diffusion en direct sur France Culture. Disparition, performance presque, puisqu'elle va se produire pour ainsi dire devant vos yeux, et disparition, hommage pour 7 ans de magazine quotidien de 50 minutes sur le fil de l'actualité culturelle nationale et internationale.
Sur le fil de l'actualité.
Comme oui. Il est écrit, effectivement, performative et critique, cette émission, c'est précisément ce qu'il la qualifierait, une émission dont la trame est un entretien croisé, on pourrait dire, de 50 minutes avec deux artistes ou figures du monde de la culture. Alors, il y a eu des figures disparues, malheureusement, comme Eric Rohmer ou Stuart Event, elle aimait qu'on l'appelle comme ça, Alpha Blondy également un peu plus tôt, et puis des figures naissantes du monde de la culture, l'acteur Jérémy El Kaïm, lui, y avait été invité deux fois au rendez-vous en 2011 et 2012, au moment où sa carrière décollait, avec cette nouvelle génération du cinéma français, les films de Valérie Donzelli par exemple. Alors, grand auditeur, il me disait tout à l'heure, écouter l'émission en faisant les pâtes pour ses enfants par exemple. Et grand auditeur, également invité, l'interview à voix multiple a été pour lui en fait une sorte de soupape expressive en plein succès médiatique. Écoutez-le.
Autonomie d'ailleurs, c'était ça qui était agréable, c'est que comme il nous demandait d'intervenir, on en parle comme si on parlait d'un mort, c'est assez drôle, effectivement cette mission va peut-être s'arrêter, mais elle a été bien vivante, et non mais c'est vrai que le fait de nous demander d'intervenir, d'être là, ce que vous disiez, enfin, effectivement le dispositif, mais y compris d'ailleurs un truc dont on n'a pas parlé qui est qu'il y avait un invité musical qu'on écoutait, enfin on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de sacralisation de la parole, alors que dans le même temps on était plutôt rigoureux et sérieux sérieux et documenté. Tout d'un coup, je trouvais qu'il y avait ça, voilà, cette joie-là qui se transmettait avec l'actualité culturelle quotidiennement. C'était pas une mince affaire et c'était plutôt réussi, vraiment.
Ça avait l'air super, cette émission. Une émission d'entretien croisé, ou plutôt un talk-show culturel atypique dans le paysage médiatique français.
Oui, atypique, là, tant cette émission de radio voisinait la télévision. Laurent Gomard, vous-même défendiez l'idée. D'autres, par contre, la combattaient. C'était l'émission radio la plus télévisuelle du PAF, écrivait un jour un auditeur critique sur le site du même nom. En un sens, il tombait juste deux plateaux pour deux invités, on connaît la formule, sous une certaine idée de, ça c'était au début, un concept donc presque architectural dont se méfiait au départ Jean Lebrun. C'était lui le producteur à l'époque de Travaux Publics, l'émission à laquelle a succédé Le Rendez-vous. Alors lui, il disait justement se méfier parce qu'il cultivait le genre décalé.
Je me craignais que Laurent, que je voyais comme un contemporain, un hyper contemporain, nous fasse la maison d'architecte de mon oncle, avec tous les instruments modernes branchés sur tout ce qu'il y avait de plus nouveau dans le monde. Mais je me suis aperçu très vite que la radiovisuelle telle qu'elle est conçue au Rendez-vous, c'est pas ça. C'est, comment dire, comme un jeu d'échecs qui permet toutes sortes de figures et que verrait un aveugle. L'aveugle étant celui qui n'a que l'arme de l'oreille et qui est l'auditeur. C'est beaucoup plus malin que la radiovisuelle stricto sensu telle qu'on est en train de l'imposer.
Alors voilà, imposer la télévision d'un côté, alors qu'au contraire, Le Rendez-vous, on devrait maintenant l'importer, me disait tout à l'heure au téléphone de Montréal Monique Giroux. Elle, vous la connaissez, elle est souvent intervenue, elle est productrice à Radio-Canada. Elle avait participé à plusieurs émissions, dont une justement en tant que co-animatrice. Écoutez-la.
C'était avant l'émission, curieusement. C'était de voir la tête de Benoît au moment où il apprenait que Laurent ne serait pas là, qu'il ne pouvait pas prendre l'avion et arriver comme prévu parce qu'il avait perdu son passeport. La tête de Benoît Lagarde, quand il a compris qu'il allait faire l'émission tout seul depuis Québec avec la quantité d'invités qu'il avait, les dossiers, c'était quand même énorme. Je suis un tout petit peu plus vieille que Benoît. Je lui ai dit, Benoît, il n'y a pas de souci, je suis là, t'inquiète pas, on va s'amuser et tout. Alors j'avais joué un peu la fée marraine pour Benoît qui s'en était parfaitement bien sorti.
Voilà, et pour situer l'anecdote, c'était lors du festival d'été à Québec. Et puis, une autre anecdote, c'est Jean Lebrun qui me disait préférer l'émission du vendredi, celle qui ressemblait à une fin de semaine anglaise.
Merci Xavier.
Merci.
On se retrouvera
à vous.
Sur les ondes de Radio France. Tout de suite, eh bien, ça va être les brèves avec une autre figure emblématique du Rendez-vous et de ce journal de la culture. C'était Xavier Martinet. Pas du tout. C'était Raphaël Bourgois.
Merci Laurent, vous m'avez oublié.
Ça, c'est ma signature de toute façon. Mais non, pas du tout. On y va, les brèves.
Je vous ai donné les titres, Laurent, vous avez donc oublié.
Oui, Royal Bacon.
L'art contemporain se porte bien, je sais que ça vous réjouit, Laurent. Quelques chiffres, je suis sûr que ça vous a manqué. Les ventes se sont envolées cette semaine. C'était chez Christie's et Sotheby's à Londres, où elles ont rapporté 318 millions d'euros, dont le quart pour des œuvres de Francis Bacon.
Radio France n'aime pas les rendez-vous.
Et oui, il n'y a pas que France Culture, c'est la fin. On le sait depuis quelques temps, Rendez-vous avec X sur France Inter aussi, c'est terminé. Et malheureusement, nos confrères de France Télévisions n'ont pas suivi le mouvement. Rendez-vous en terre inconnue devrait reprendre à la rentrée, toujours avec Frédéric Lopez.
Et pendant ce temps en Russie,
les libraires russes n'ont pas la vie facile. En 25 ans, leur nombre est passé de 8500 à environ 1500, encore des chiffres. La Douma, c'est le Parlement russe, Laurent, s'en est ému et cherche des solutions jusque dans les glorieux passés soviétiques. Sergueï Narychkine, président de la commission culture, propose de réactiver une pratique en vigueur du temps de l'URSS. Les locaux propriétés de l'État pourraient être mis à disposition des libraires moyennant un loyer extrêmement préférentiel.
Ah, coucou.
Coucou. Les guignols sur Canal+, finalement, ce n'est peut-être pas fini. On l'a entendu dans les titres de Stanislas Vazak, Vincent Bolloré qui a essuyé une véritable bronca hein, après les rumeurs de suppression de l'émission politico-satirique a donc reculé. En revanche, le grand journal serait sur la sellette.
Et enfin, un avis de recherche.
La fin du rendez-vous laisse sur le carreau un certain nombre de tournures de phrases qui devraient intéresser les jeunes journalistes rêvant de suivre vos traces, Laurent Goumard. Et oui, j'ai employé un participe présent au trop banal. Pourquoi on préférera ancrer sa question dans l'histoire personnelle de l'invité, hein ? À quel moment dans votre parcours ? On ne dit pas qu'avez-vous voulu dire ou faire, mais qu'est-ce qui se joue à cet endroit précis ? C'est plus ludique, évidemment. Enfin, main de fer dans un gant de velours. On met bien la pression à l'invité par des formules injonctives du style « Pourquoi fallait-il ? » À moins, évidemment, que vous n'emmeniez vos gimmicks et toutes ces jolies formules avec vous, Laurent.
Et vous, on vous retrouve à la rentrée ?
Toujours dans la
Toujours
grande
à la grande table.
Voilà, avec Caroline Brouet.
Merci Raphaël. Pour terminer, eh bien, la petite histoire du soir. Et c'est Benoît Lagan qui retrouve cet exercice qu'il avait particulièrement initié.
Eh bien, ce soir, une petite histoire horrifique ou comment une artiste...
Je sens qu'il va surjouer la chose.
Ou comment une artiste adepte du plat lourdement digestif s'est lancée dans une aventure culinaire qui fait peur. Je vous raconte.
Ouais, tout commence... Dire que cette émission va être podcastable pendant 1000 jours.
Tout commence quand on a appris la décision pour cette dernière des dernières du rendez-vous de me faire revivre aujourd'hui ma petite histoire du soir. Et donc, j'ai repris mes vieilles habitudes. Et pour cela, je suis parti à la recherche d'une information inutile qui va faire le tour de la toile, c'est dire son importance. Mais voilà, de site internet, je tombe sur celui du Huffington Post qui, en matière d'information sans intérêt, est plutôt bien nourri. Et le site nous sort du four ce matin une info monstrueuse, une exclusivité qu'ils sont seuls à mettre en avant, la petite histoire de Christine McConnell, la photographe pâtissière amatrice de films comico-horrifiques.
Qu'est-ce qu'elle... ce bruit, c'est du bruitage, ça n'existe pas. Mais qu'a donc fabriqué donc cette photographe pâtissière?
Eh bien, ni plus ni moins que des gâteaux au caramel et noix de pécan ou encore des carrot cakes à l'effigie de petites bestioles qu'il faut éviter d'exposer à la lumière intense et qu'il ne faut jamais asperger d'eau de quelque manière que ce soit, dommage en temps de canicule. Et le plus important, des bestioles un peu comme les membres du rendez-vous à qui il ne faut jamais, mais alors jamais donner à manger après minuit 10. Bref, vous l'aurez compris, Christine McConnell n'a pas reproduit les gentils goumis, mais les méchants gremlins du film de Jordan Peele.
Mais il y a plein de jeux de mots, mon Dieu.
Et l'artiste, comme toujours.
J'ai bien fait de supprimer cette histoire. C'était duré trop longtemps.
Et l'artiste de s'expliquer. J'adore ce film depuis des années. J'ai décidé de créer ma propre petite histoire en combinant des personnages et des scènes du film dans ma cuisine. Moralité à l'inverse du film. Christine a donc passé ses ingrédients au mixeur et au four pour mieux reconstituer des scènes des gremlins sévèrement beurrées. Miam, miam. Miam, miam. Miam, miam.
Goumi, non ! Merci Benoît pour cet hommage aux Gremlins. Aux Gremlins et à d'autres surnoms que l'on peut me donner par ailleurs. On continue, je crois qu'on a un planning assez chargé. On va retrouver celui qui fut vraiment le programmateur de toutes les séquences musicales de l'émission.
Oui.
Dites votre nom.
Ah mais non, je fais pas ça.
Mathieu
Conquet. Merci.
Le rendez-vous, la session.
Traçant un arc dans la nuit.
C'est-à-dire que généralement, au moment de prononcer le nom des gens, qu'ils soient les invités ou que ce soit les collaborateurs, j'ai
pétrifiés.
Un trou noir et j'ai envie de dire mon nom à la place. C'est exactement ça. Mathieu Conquet.
Laurent, je devrais dire Marc alors peut-être pour changer.
Ça y est, ça commence. Marc Voinchet, puisque bien sûr, vous signez une chronique tous les matins. Sur la matinale.
Dans la matinale
de Marc Voinchet.
Et notre invité ce soir, il fait partie, si on en croit les Inrock, de ceux qui réinventent la culture en France. Je ne sais pas si la
faut-il
formule
croire
est de vous,
Jean-Marc
Lalanne. Faut-il croire les Inrock? Mais oui, il faut les croire, en l'occurrence, pour Flavien Berger, un ancien étudiant en école de design, enseignant en vidéo, en prépa d'école d'art, et son premier album, Léviathan, disque monstre, un peu à l'image du mythe, en mouvement permanent. Ses concerts avec ou sans drone en ont secoué plus d'un, ni post, ni avant-garde, juste contemporain, et l'inverse est vrai. Image de la fête noire, de la fête foraine qu'il a fait connaître, qui a fait connaître son album Léviathan, Flavien Berger, est dans le studio face au clavier Rhodes et ses gravités pour commencer.
Chérie, tu sais, je n'attendais que toi. Dans la nuit, sous la lune, je suis sous, tu m'allumes et j'aime bien. Oh chérie, tu sais, bientôt tout va changer. Dans la pluie, j'attendrai que l'amour inverse la grâce. Oh, tu sais que je vais t'embrasser sous la lune, dans la nuit, mais nous deux, c'est un peu compliqué. Oh, chérie, je suis fou.
ciel est à tes pieds et je suis à genoux.
Flavien Berger en direct sur France Culture pour cette dernière du rendez-vous. Mais il ne faut pas pleurer, Flavien Berger, il sera en concert le 15 août à Saint-Malo, à la plage du Bon Secours, pour le festival La Route du Rock le 25 septembre à Reims. Et ça continuera partout en France jusqu'à novembre. Son album Léviathan est édité sous le label Pan-European Recordings. Et puis, un peu d'autopromo ne fait pas de mal. Vous pourrez l'entendre dans Continent Musique.
Ah, mais c'est votre émission, ça tombe bien.
Demain à 19h.
Il n'y a rien au Shabbat d'Angers. Il n'y a rien au Shabbat d'Angers.
Parce que vous étiez un spécialiste quand même du Shabbat à danger. Ça faisait un petit peu club à partout chaque fois que vous disiez ça. Vous avez un son, c'est ça? Le son du jour.
Forever you. I love.
Zoé Sfez a une bouteille à la main. C'est complètement sexuel. Elle l'essuie, c'est dégoûtant.
Oui, qu'est-ce que c'est que ce son du jour quand on entend
une bouteille de champagne a été ouverte.
Oui, bien sûr. Voilà.
Est-ce que vous ne vous en souvenez pas, Laurent? Non. Alors, c'était dans ce qui était le Studio 168 de France Culture, dont on avait fêté la fermeture. Et c'est une session surprise, en fait, un jour. Quand on m'a demandé, Thomas m'a dit, mais parmi les souvenirs que tu as du rendez-vous, les moments... il y en a eu beaucoup, il y en a eu vraiment beaucoup. Mais le premier qui m'est venu à l'esprit, puisqu'il est question du temps qui passe, c'est celui-là. C'est Cédric Maïton, c'est le chanteur des Congos. C'est un groupe dont je suis fan, un groupe de reggae qui est apparu dans les années 70. Et,
contre toute attente, on partageait ça avec Mathieu.
Voilà, le goût du reggae.
Ouais, c'est vrai.
J'aime beaucoup que le reggae.
J'adore le reggae, mais c'est vrai. Ouais, voilà. Ça.
Et donc, un jour, on reçoit Winston McAnuff, autre musicien jamaïcain, qui est notre invité. Il me dit, je suis venu avec quelqu'un. Écoute, est-ce que ça t'ennuie pas s'il chante une chanson? Je dis, non, mais de qui s'agit-il? Cédric Maïton. Et j'ai failli tomber dans les pommes. Vraiment, c'est une des rares fois où j'étais très impressionné par l'arrivée de quelqu'un que je m'attendais pas à voir. Et il a chanté, c'est quelqu'un qui, Cédric Maïton, qui doit avoir largement plus de 60 ans maintenant. Et il a chanté Forever Young. Et à ce moment-là, quand il a chanté ça, il était vraiment plus jeune que tout le monde dans cette pièce. Il le sera toujours si vous réécoutez cette chanson.
Archive. Vous, idéologiquement, vous seriez le contraire de quel autre cinéaste?
Moi?
Ouais. Ou le couple que vous avez formé avec Daniel Huillier?
Je suis bien incapable de répondre à cette question. C'est vous qui devez y répondre. Je ne sais pas.
Alors, je poursuis. Le plus long silence du rendez-vous, c'était avec Straub. C'est ça, hein,
c'était Jean-Marie avec Straub. Jean-Marie Straub, c'était en janvier 2011, quand Thomas m'a demandé de réfléchir à un son. J'ai pensé à celui-là. Parce que, en fait, curieusement, un des moments les plus marquants pour moi, ça a été un des moments où ce qui se passait sur le plateau était tellement fort que je m'en suis sentie complètement expulsée, vraiment auditrice. Et en fait, ce qui se passait, c'était Laurent, Jean-Marie Straub, et c'était un peu comme deux camions face à face, vraiment. Et c'était à celui qui tournerait en dernier son volant et voir Laurent en camion. C'est intéressant, c'était pas mal. Et ça a été vraiment un moment assez intense de les voir tous les deux. En fait, ils étaient vraiment plus que tous les deux à l'antenne, à lutter, et c'était très intense. Et moi, c'est un moment qui m'a beaucoup impressionnée.
Vous vous souvenez aussi de ce moment
Je crois que j'étais pas là ce jour-là, mais j'ai souvent interviewé Jean-Marie Straub, il peut mettre de très longs silences en effet.
Mais généralement, il n'y avait jamais de silence, on se faisait un devoir, pas qu'il n'y en ait pas, mais il y en avait.
C'est pour ça aussi que c'était un moment très particulier, parce qu'il y a eu des silences très très longs et que vous avez laissés, et qui étaient très tendus.
Merci.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Manou qui aura. L'année prochaine, on peut le dire ou pas ? La saison prochaine ?
On peut le dire un peu.
On peut le dire un peu, une émission sur France Culture.
Autour... Le vendredi soir à 23h, autour de la poésie et des nouvelles écritures.
Donc, tout le monde grandit dans cette émission. Première chronique avec Xavier Delaporte. On n'est pas jeudi, on est vendredi, mais ce sera la chronique du jeudi. Xavier Delaporte, Place de la Toile, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes
même
toujours...
Même ce soir ?
Ouais, dont vous êtes le rédacteur en chef, bien sûr, on est toujours en partenariat. Il est venu avec ses enfants, généralement il en parlait tout le temps, j'ai jamais compris qu'il en avait vraiment, mais là on a la preuve, il y a les deux qui sont là. Une qui fait des dessins, elle est gentille, et un autre qui fait...
Qui m'évente.
Qui se prend pour Karl Lagerfeld avec un éventail version années 90. Xavier, ce soir au programme, quelque chose que je vais comprendre ? Je comprenais à la fin.
J'espère parce que je vais parler de vous. Alors peut-être que vous n'êtes pas la chose la plus facile, la plus translucide à vous-même, je sais pas. Moi, enfin, ça. Pendant longtemps, exista à la télévision française une série policière qui s'intitulait Les 5 dernières minutes. Entre parenthèses, célébrons cette époque qui avait bien des défauts, mais n'avait pas celui d'être gouvernée par des publicitaires et des marketeurs qui, obnubilés par l'audience, se seraient opposés à ce qu'une série s'intitule Les 5 dernières minutes, signifiant par là même qu'avant ces 5 dernières minutes, pas grand-chose ne compte, ce qui n'est pas forcément superfluide du point de vue commercial. Et pourtant, n'est-ce pas la stricte réalité. Ne sont-ce pas les 5 dernières minutes qui comptent ? Tout ne converge-t-il pas vers ces 5 dernières minutes ? C'est ce que je me suis souvent dit en arrivant le jeudi soir dans le bureau du rendez-vous, au 8e étage de la maison de la radio, vers la porte D. Ainsi vais-je tenter, ce soir, là j'ai déjà grillé les 2 minutes que Thomas Beaume m'a donné, mais c'est pas grave, de vous restituer les 5 dernières minutes, celles qui précèdent le direct, ou pour être plus exact, celles qui précèdent la descente au pas de course vers le studio 108, qui lui se situe au rez-de-chaussée de la maison de la radio. Descente qui s'effectue aux alentours de 18h56, soit 5 minutes avant la prise d'antenne, 24, ce qui transformerait tout accident, panne d'ascenseur, pied dans le tapis, rencontre d'un chef, en retard ou en impolitesse. Il doit y avoir là un plaisir.
Oui.
Il m'échappe. Mais bon. Donc je ne vous parlerai que de ces 5 dernières minutes dans le bureau. Quand on entre, on est saisi par une sorte de frénésie qui fait que même si on n'a rien à faire, on s'assoit à un ordinateur et on se met à taper n'importe quoi comme un dingue. Car on sent bien qu'être inactif ou même calme serait une insulte au groupe et à sa logique. Zoé Sfez tape comme une dingue, elle aussi, sur son ordinateur pour terminer son journal de la culture. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle tape comme une dingue, parce qu'elle a un casque sur la tête, mais elle tape comme une dingue.
Et quand on lit ce qu'elle écrit, c'est vraiment une écriture de dingue.
Voilà. C'est-à-dire puis elle se lève.
Une orthographe
mais
absolument démente.
J'ai une logique interne, je suis presque une artiste, moi aussi, c'est un dispositif.
Ouais, c'est ça, allez. Puis elle se lève dans un tournoiement vertigineux de froufrou et va saisir les pages imprimées de son journal, une cigarette à la main non allumée, je le précise, pour le CHSCT, dans une gestuelle qu'après de nombreuses heures de travail, elle a empruntée au pin-up des années 50. Là, plusieurs versions. Version 1, les feuilles s'impriment, elle sourit, elle descend fumer sa cigarette, tout va bien. Version 2, problème d'imprimante, ou pire,
systématique.
Disparition de son papier dans les méandres de l'informatique, et là, elle saisit son téléphone pour appeler la maintenance, sur un ton où elle mêle douceur et violence dans un savon de dosage. Pendant ce temps-là, Lucille Comeau fait part au monde de son avis toujours plein de nuances sur la vie culturelle française.
Oui, David pour moi, et David Bowie pour moi, c'est rien. Voilà. Ça, c'est la phrase de Lucille Comeau.
Et ce spectacle, beau, pas ouf. Et ce livre, chiant. Et se metteur en scène, un naze. Et alors, c'est sûr que quand Lucille Comeau dit « Alors, ça c'est sublime », et ben là, vous savez que c'est sublime. Puis Lucille Comeau, elle tire des grands traits sur ses feuilles, elle supprime des questions de son conducteur, c'est sa deuxième grande activité. Pendant ce temps-là, Benoît Lagan, il est dans un état de concentration qui ferait passer un tireur d'élite pour un épileptique. Rien ne bouge. Yeux vissés sur l'écran, doigts qui parcourent le clavier. Attends, je finis mon truc.
Il parle à son enfant.
Voilà, si vous voulez le faire... parler de solutions. Soit vous lui posez des questions sur ses enfants, il répond beaucoup. Ou alors vous lui demandez s'il a vu une série de télé. Il dit ah ben oui bien sûr. Il explique avec son accent un peu du sud. Mais tu sais le réalisateur dans les années 90 avait déjà réalisé le 4e épisode d'une série qui a été diffusée pendant 3 mois sur HBO avant d'être arrêté parce que l'acteur principal avait rompu son contrat pour partir de la Fox. On lui promettait mieux. Là il est interrompu par Lucille Comeau qui lui dit ouais mais elle est pourrie ta série. Et Benoît Lagan, lui, argumente, plus son accent ressort. C'est drôle d'ailleurs comme les accents s'accroissent dans les moments de relâchement. À chaque fois, je me dis que quand il fait l'amour, Benoît Lagan, il doit parler en langue d'oc. Thomas Beau, lui, il monte les derniers sons.
C'est le réalisateur.
L'air, c'est le réalisateur. L'air sévère. Ouais, toujours un peu agacé, Thomas Beau. Thomas Beau, vous voyez, c'est un mec sérieux. Il rigole pas avec le son. Un jingle, c'est un truc qui se pense. Un jingle, c'est pas une virgule. Alors Thomas Beau, il n'aime pas trop quand il y a du bruit dans le bureau. Ça passe à travers son casque et ça risque de transformer son jingle en virgule, ce qui serait une catastrophe intellectuelle. Alors parfois, il retire son casque et dit « Mais vous pouvez pas la fermer un peu ?» d'un air hyper méchant. Et là, ça fait rigoler tout le monde parce que Thomas Beau, il fait pas peur du tout. C'est pour ça que je fais 7 minutes de chronique alors qu'il m'a dit 2. Quant à Aissatou Ndoye, elle est prête. Aissatou Ndoye, c'est un synonyme de la perfection. C'est la seule qui a l'air de comprendre quelque chose à ce qui se passe et de savoir ce qui va se passer. C'est très rassurant de regarder Aissatou Ndoye. Avant tout le monde, elle prend son sac et elle descend chercher les invités. Et au milieu de tout ça, il y a évidemment le centre de la scène, Laurent Goumard, qui vous accueille toujours avec une phrase qui serait un peu prononcée par une sorte de Lao Tse Pop, vous voyez. Salut, tu féliciteras ton coiffeur. Ça s'arrête là. Laurent Goumard, il alterne deux positions physiques. Debout, tel Napoléon face à ses 8 scribes en randonnion, il arpente la pièce et dicte le chapeau à un ou une stagiaire, Hippolyte puis Elsa, qui s'efforce de taper aussi vite que Laurent Goumard parle, ça veut dire très vite. Pauvre stagiaire qui transpire parce qu'il ou elle voit le temps passer et ne comprend pas toujours très bien comment son patron arrive à aligner autant de mots sans mettre un verbe. Un rendez-vous au pied du mur entre Alpes, forme, coloriage, un rendez-vous entre Deleuze et Guattari. Là, le ou la stagiaire se dit « Mais de quoi il parle? Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? Mais faut pas que je cherche à comprendre. Merde, Guattari, ça s'écrit comment? Putain, Guattari, merde. » Oh, il s'approche. Parce que la deuxième position de Laurent Goumard, c'est pencher sur le dos du stagiaire pour regarder ce qu'il écrit sur l'écran. « Non mais ça va pas? Mais t'as vu comment t'écris Guattari? Non mais attends, c'est 2 T et 1 R Guattari, non mais c'est pas possible. Et puis t'as oublié forme, c'est un rendez-vous au pied du mur entre Alpes, forme et coloriage. Mais c'est pourtant clair, enfin c'est évident, ça veut dire plein de trucs, non? » Et là le pauvre stagiaire dit « Ouais, 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 ouais !» d'un air convaincu et il met ses 2 T à Guattari et 1 R aussi. Et là quelqu'un dit « il est 56 ». Et puis tout à coup, tout le monde se lève et disparaît presque en courant dans le couloir. On suit, nous, les autres, d'un pas emprunté, en se demandant à chaque fois ce que ça va donner. Et bien, à chaque fois, ça donne le rendez-vous.
Ouais, merci.
Le rendez-vous.
Archive.
Tu aimes être une femme. Il veut qu'elle se colle à lui. Qu'il n'y ait aucun interstice. Et qu'ils aient un moment paisible, calme, de tendresse pure, tous les deux. Il lui demande si elle sent l'union profonde qu'il y a entre eux à cet instant, comme s'ils étaient une seule et même personne. Il lui demande si elle est bien. Il lui dit que ce qu'ils vivent est exceptionnel, qu'il n'a jamais vécu ça avec personne, qu'il a l'impression d'avoir enfin rencontré une femme qui le comprend et à qui il peut tout dire, qu'il ne parle à personne, que personne ne sait qui il est vraiment. Sauf elle. Qu'elle est la seule.
C'était Isabelle Huppert qui improvisait sa lecture quand elle a rencontré ici même Christine Angot dans le rendez-vous. Isabelle Huppert, ça a été un peu notre, on va dire, notre Navarro. Elle est revenue plusieurs fois dans l'émission. Trois ou quatre fois, toujours extraordinaire. Mais la rencontre avec Christine Angot, il s'est véritablement passé quelque chose. Qui a ensuite débouché d'ailleurs sur quelque chose dans les Incultibles.
Oui, ça nous avait donné une idée aux Un Rock. On avait fait un entretien croisé dans un numéro qu'Isabelle Huppert dirigeait. Merci, le rendez-vous.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Eh bien, qu'avez-vous choisi, Thomas Clair, pour la dernière chronique de la saison, puisque c'est notre dernier jour aujourd'hui?
Eh bien, j'ai choisi Coloriage Passion. Et oui, de tous les magazines que j'aurais compulsivement traqués, eh bien, Coloriage Passion est sans doute l'un des plus intrigants. Il est également rusé, car sa couverture d'une bigarrure tonitruante ne laisse aucunement soupçonner son intérieur, un peu comme ces palissades habilement dressées devant le pavillon de vos rêves. Publié par Megastar, une entreprise au nom ambitieux, Coloriage Passion est un magazine exclusivement dévolu à l'enfantine passion du coloriage, bien qu'il ne s'adresse pas en priorité aux petits, en dépit du CP de ses initiales. Coloriage Passion, CP donc, est une revue de coloriage pour adultes. Ouais. Mais ne fantasmez pas trop vite, éteignez cet œil libidineux qui vous trahira toujours. Coloriage pour tous, tel est le dessin implicite de ses concepteurs. C'est le numéro 3, mais ça pourrait être le numéro 39 ou le numéro 2595, car la revue, l'album plutôt, se présente toujours identique dans un format grande poche, 24 par 16, et se compose donc de planches à colorier pleines pages, en noir et blanc, prêtes à l'emploi. la sobriété absolue de coloriage passion et d'un minimalisme à faire pâlir n'importe quel directeur artistique. D'ailleurs, ces fanatiques de la planche à repasser les couleurs ont refusé toute pagination qui pourrait déflorer le motif. Puritanisme admirable, de ses partisans de la ligne à la Poussin, tendant à un piège aux coloristes à la Rubens. Pour les barbouilleurs, coloriage passion multiplie d'ailleurs les formules. Il y a coloriage évasion, coloriage mandala, etc. On se dit que la rentabilité doit être assez scintillante pour entretenir pas moins de 12 apôtres dans la rédaction. Alors même que la ligne éditoriale est d'une clarté qui confine à la psychose, il n'y a aucune trace de verbalisation dans cet opus décidément radical.
Pas si d'édito.
S'il y a quand même un bulletin d'abonnement et un édito non signé de 9 lignes, qui est d'ailleurs situé de façon très pauvre, non pas en page 1, mais à l'intérieur de la page de couverture en glacé. Donc le magazine fonctionne vraiment sur une distinction très nette entre son noyau et son enveloppe. La minable thématique picturale de ce numéro, cuisine, nature, mode, est heureusement débordée par une iconographie ô combien plus riche qui dément la pauvreté du programme. Des pigeonniers, une sorte de plume-fleur, une bibliothèque de livres, la tête d'un lion, les intestins de Louis XIV, des donuts, un masque asiatique, un costume de sapeur congolais. Tous les motifs sont bons pour donner libre cours à la passion si belle du coloriage. Celle qui, d'après Patti Smith, avait saisi Robert Mapplethorpe dès son plus jeune âge. Contour fin, ligne épaisse, gros traits, rayures légères, le style des figures épuise toutes les possibilités esthétiques. Cette suite de planches est tellement intrigante qu'elle vaut pour elle-même. On pourrait l'activer ou pas. On peut la laisser vierge, hein, par exemple une cascade de pots de peinture, qui appelle une débauche de feutre. Eh bien, on pourrait se contenter de la découper, de la poser sur un mur blanc et vous aurez un très beau Claude Kloski. Pour finir, quelles sont les fonctions d'un tel magazine ? Remplir l'espace, utiliser la joie, d'accord ? Essentiel, éventuellement tester le degré de folie de votre entourage, quelqu'un que vous prendrez en délit de n'utiliser qu'une seule couleur pour saturer le bus Volkswagen qui se trouve devant un décor baroque, pour être sûr alors que ce serait un criminel ou un enfant qui deviendra un grand artiste. En réalité, en fait, le coloriage passion est destiné à lutter contre le stress. Oui, le stress au travail ou le stress dans les transports, il est d'ailleurs très agréable, très doux et très reposant, non seulement de colorier soi-même, mais de regarder quelqu'un colorier, alors qu'il est pénible de regarder la même personne faire des sudoku, des mots croisés ou des mots fléchés. J'ignore pourquoi j'ai pris coloriage passion pour finir la saison des chroniques, peut-être parce que c'est la Saint-Thomas, peut-être parce que, comme disait Louis-Ferdinand Céline, je suis le coloriste de certains faits.
Merci Thomas Clerc, c'était la dernière chronique revue et corrigée de Thomas Clerc, celle du vendredi. Des souvenirs peut-être, Zoé Svez, des chroniques de Thomas Clerc ?
Zoé Svez.
Mais c'est dingue. Mais c'est, je suis complètement, mais c'est Alzheimer, quoi. Je vous regarde, pourtant.
Vous savez que c'est Pierre Maillot qui fait ça à vous ?
Oui, oui, vous partagez quelque chose avec Zoé Svez.
Le rouge à lèvres.
Voilà. Il n'y a que ça. On retrouve tout de suite la session, deuxième partie.
Le rendez-vous, la session.
Ça fait du bien.
Il n'y aura jamais eu autant de sessions dans le rendez-vous. Mathieu Conquet, on en avait deux quelquefois. Oui, assez souvent d'ailleurs. Oui, je prenais du temps sur mes invités.
Et même des spéciales Québec.
Oui.
Ce soir, deuxième session, session double donc, et cinéphile, hein, puisque ce sont deux sœurs jumelles. Mais ce ne sera pas le répertoire de Jacques Demy et Michel Legrand, peut-être à cause de l'excellent souvenir qu'a laissé Michel Legrand dans ce studio. Ce soir, Zoé Svez et sa sœur Lou, orthophoniste et chanteuse, vont reprendre une chanson phare du répertoire des Andrew Sisters. Vous savez, je vais très mal le prononcer, mais vous m'excuserez.
Ah bah alors, moi, c'est... allez-y.
Beimir Mist Duschen.
Ah, mais Manu, elle peut le faire.
Oui, oui.
Elle est... C'est elle, la Germanie de service.
J'ai même pas
compris. Beimir Bist Duschen. Tu es beau.
Ah, oui, mais c'est... Pardon, c'est parce que j'ai pas compris.
Bon, je ne suis pas
germanophone. Ah, oui, comment on dit alors ?
Tu es jolie. C'est ça ?
Voilà, tu es jolie.
Beimir Bist Duschen.
C'est une chanson phare du répertoire des Andrew Sisters. Et cette fois-ci, Lou, la sœur de Zoé Svez, que vous avez eu l'habitude d'entendre, Lou, elle est orthophoniste et chanteuse. Elle a un ukulélé à la main. Un ukulélé, vous vous souvenez, sans doute comme Marilyn Monroe dans le train qui l'emmenait dans Some Like It Hot. On est en direct sur France Culture. On vous écoute.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, did my heart grow light? And the soul will sing you to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. Bon mir, bis du shame, please let me explain. Bon mir, bis du shame, means you're grand. Bon mir, bis du shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say belle, oh belle, I'd even say wunderbar. It's language only.
try to explain, by mere bits of shame. So kiss me and say you'll understand. By mere bits of shame, you heard it all before, but yet I try to explain. By mere bits of shame means that you're grand. By mere bits of shame, it's such an old refrain, and yet I couldn't explain. By mere bits of shame means that you're grand. I could say Bella, even say wonderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bits of shame, so kiss me and say that you would understand.
Ah, vraiment, elle a tout pour plaire. Hein. Merci, les Sœurs Fez.
Les Sœurs Fez en direct sur France Culture. Les Sœurs Fez, Zoé, il y a de fortes chances pour que vous l'entendiez à la rentrée à nouveau sur France Culture. Mais Lou, vous l'entendrez aussi probablement sur d'autres scènes à suivre donc.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Et tout de suite, c'est le dernier questionnaire autoportrait de Manu Farine qui, tous les lundis, avait rendez-vous avec les professionnels de la profession. Ce soir, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est Thomas Beau, notre réalisateur. Le rendez-vous aura été l'émission de sa maturité, les portraits de stars, le résumé en fin d'émission, les habillages avec la voix d'Aïssa Tous, c'est lui. Manu ?
J'ai presque plus rien à dire, hein. Donc c'est un questionnaire pas si spécial parce que c'est un métier sur lequel j'aurais pu, j'aurais peut-être même dû me pencher, donc celui de chargé de réalisation pour la radio, c'est-à-dire celui qui donne forme à l'émission. Et donc pour la dernière, c'est Thomas Beau, donc le mec sérieux en question, notre réalisateur pour qui j'avais promis de ne pas être sentimentale, mais j'ai une admiration infinie. Et comme il a passé tous ses lundis matins à monter ce questionnaire, il s'est monté lui-même.
Questionnaire réalisation, s'est monté lui-même. Thomas Beau, Manu Farine.
Le son de votre enfance.
C'est la flûte enchantée que mon père m'a fait découvrir. Et ma mère et mon père me laissaient parfois tout seul à la maison. Ils ne m'abandonnaient pas, mais ils me laissaient à la maison. Ils me laissaient avec la flûte enchantée. Donc ça m'a bercé. Et c'est comme ça que j'ai cru que j'allais devenir Papageno plus que Tamino.
Première réalisation radio.
C'était dans une radio régionale privée à l'époque. Ça fait 25 ans. Le directeur des programmes à l'époque m'avait demandé de faire une émission un petit peu alternative un soir par semaine. Et je savais que dans son bureau, il recevait plein de disques. Et à l'époque, ces disques, c'était Björk, c'était Ben Harper, c'était Massive Attack, c'était des choses comme ça. Et on ne s'en servait pas parce que c'était une radio donc commerciale avec plutôt mainstream. Donc du coup, j'ai raflé tous ces disques et je lui ai dit, voilà, on va faire une émission avec les disques que tu mets à la poubelle. Ça s'appelle La Poubelle. Tous les jingles étaient faits d'ailleurs avec une grande poubelle en métal sur la tête où on parlait dans la poubelle.
La radio ou l'émission de radio qui a pu vous donner envie de faire ce métier ?
J'ai découvert vraiment ce qui m'intéressait en radio en Bretagne. En écoutant Radio Nova, ce qui était paradoxal, puisque en fait j'étais obligé d'acheter une parabole avec CanalSat à l'époque, juste pour avoir la radio, pour pouvoir écouter Radio Nova, puisque ça n'existait pas évidemment là où j'étais en Bretagne. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je déménage, que je vienne à Paris, parce que sinon je suis en train de passer à côté de ce que je dois faire.
Première erreur de réalisation.
France Inter, je fais un remplacement, je fais le téléphone sonne, je suis dans mon bureau, je suis deux étages en dessous du studio, j'écoute le journal de 19h, ça m'intéresse, jingle, on sort du journal. Le générique commence, sauf que j'oublie que c'est moi qui le réalise et j'écoute le début de l'émission dans mon bureau. Évidemment, j'ai couru très très vite sur le studio.
L'émission que vous auriez aimé réaliser ?
Je pense que j'aurais aimé réaliser Éclectique de Rebecca Manzoni quand c'était le dimanche sur France Inter. C'est une émission que j'ai trouvée très belle en fait dans sa réalisation et dans son contenu.
L'émission que vous ne pourriez pas réaliser ?
Je pourrais pas faire une émission sportive. Voilà, ça m'intéresse pas.
Une faute de goût de réalisation.
Parler sur une musique alors que la phrase musicale n'est pas terminée. Parler sur une musique quand il y a un chanteur qui chante. Pas rentrer dans le temps, pas être dans le temps en fait.
Ce que ces 6 années de rendez-vous vous auront appris sur la réalisation.
La créativité dans la rigueur. C'est-à-dire qu'avant, je suis passé par d'autres radios du service public qui étaient France Inter et France Bleu. Où on apprend vraiment, notamment à France Bleu, vraiment le côté chef de gare, beaucoup de rigueur, beaucoup d'efficacité. Dans l'émission Le Rendez-vous, particulièrement, on garde cette idée du rythme qui est très importante pour Laurent. Et en même temps, on arrive à créer des instants de créativité à l'intérieur de ça. Avec un montage sonore, par exemple, sur un invité, il faut que j'arrive à dire quelque chose en 1 minute, 1 minute 20. et que ça soit efficace, que ça soit éventuellement poétique, intéressant pour l'auditeur, intéressant pour Laurent qui peut éventuellement poser des questions derrière, et que ça puisse toucher aussi l'invité. Donc comment être efficace sans être ridicule dans un temps très très resserré. Un des premiers montages qu'on a fait sur Duras avec Laurent, je me souviens qu'il avait été très très ému à l'écoute, et je m'étais permis à l'époque, je me souviens, de resserrer légèrement les paroles de Duras, très légèrement. Dans les montages récents, Anaïs de Moustier, où je me suis basé sur le film Bird People, et il y a toute une scène où elle devient un oiseau, et donc je me suis servi de cette base-là, et à partir de là, j'ai pu raconter l'histoire que je voulais raconter, qui était l'éveil d'une actrice, la naissance d'une actrice.
Thomas Beau, merci.
Je crois que toute l'équipe ici peut féliciter Thomas Beau, peut-être, le travail qu'il a mené véritablement pendant 6 ans, on a tous inventé avec lui véritablement ce qu'était le rendez-vous, les portraits, les bandes annonces qui passaient, les bandes annonces qui étaient retravaillées à l'intérieur pour pouvoir poser une question ensuite à l'invité. C'est un travail de maître et d'orfèvre qu'on a mené pendant 6 ans. Merci Thomas, que j'étais allé chercher à minuit 10 quand je l'avais écouté avec Aude Lavigne et Xavier Delaporte ici présent. Archives.
Il y a le vent, il y a le ciel bleu, il y a les arbres qui bruissent et il n'y a rien d'autre. Et vous ne pouvez pas raconter. Il n'y a rien à raconter. Vous allez raconter quoi? Il y a beaucoup de morts? C'est 5 mots. Il y en a partout? Allez, là on est en train de tirer à la ligne, c'est 10 mots. Et après, il n'y a plus rien.
Qui a choisi cet extrait?
C'est Issa Tuendoy.
Elle est là, elle va nous expliquer pourquoi. Non, parce qu'elle est en train de pleurer.
Non, elle nous expliquait, c'est vrai qu'elle nous expliquait que...
Pour quelle raison?
C'est Saint-Exupéry.
Voilà,
oui, c'est Saint-Exupéry, oui.
Sur le Rwanda, et Aïssatou nous disait que son plus grand souvenir, c'était celui-là, parce qu'en fait, rien que le fait d'y repenser, elle avait les poils qui se hérissaient sur sa peau.
Et c'est ce qu'on peut voir juste voilà. À côté, parce qu'elle est accroupie à côté du piano. C'est très radiophonique. Merci en tout cas à Aïssatou, qui a été la voix, l'âme de l'émission, et ça depuis le départ, on pourrait dire la colonne vertébrale, parce que dans le bordel ambiant...
Et sa morale même.
Et sa morale, oui. Et il en faut.
J'aurais tant aimé dire à vous qui n'êtes plus.
Voilà, mes enfants, je suis désolé. J'ai des crampes aux mains, je ne suis pas tout jeune encore. Pas encore. Mais ça fait, on continue.
Je suis d'un autre monde. Je suis d'un autre temps. Je suis encore en vie, pas pour longtemps. Je vais vous la chanter comme ça. Le peu de temps qui reste, à quoi peut-il servir, si ce n'est à faire vivre le précieux souvenir de ceux qui ne sont plus, de ceux que j'ai perdus, alors qu'ils vivent en moi chaque jour un peu plus.
Waouh! Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé un son, Claire Maillot. Et le son que vous avez choisi, c'était celui-ci. Pour quelle raison?
C'est un live de Serge Rezvani qui date du 5 juin 2012. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un très beau moment de radio. Et c'est drôle parce qu'on ne s'est absolument pas concertés tous ensemble et qu'on se rejoint quand même sur l'idée que les silences, ça faisait du bien. Et qu'on sait, on connaît votre obsession du rythme et du séquençage. On l'a tous plus ou moins subi dans la manière de poser les questions qui devaient être absolument très très brèves. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est que voilà, ça parle du temps qui passe. Pareil que Mathieu Conquet tout à l'heure, que Manu Farine l'aime beaucoup et que c'était un moment performatif. Ça aurait pu se retrouver dans un des chapeaux de Manu Farine. Et puis enfin, c'est un son qui est très fort pour moi parce que ça faisait à peine 2 jours que j'étais avec vous dans l'émission, que vous aviez accepté de...
de vous faire passer.
De m'accepter dans cette équipe, que j'ai énormément appris à vos côtés.
Parce que vous avez été stagiaire pendant très
longtemps.
Je suis
un peu la stagiaire qui reste 2 ans.
2 ans de stage.
Elle a quitté le droit pour venir à France Culture.
En effet,
pour l'émission. Et puis pour la petite blague aussi, c'est que ça se passait dans le studio de l'Agora. Un studio que vous veniez juste d'intégrer. Et puis que quelques jours plus tard, vous deviez le quitter pour cause d'amiante. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur la maison de la radio. Et voilà, merci.
Merci Claire Maillot. Claire Maillot qui a tout fait ici, qui a été stagiaire, mais pas que stagiaire, 2 ans. C'est vrai qu'elle nous avait beaucoup marqué par la ténacité qu'elle avait et puis la façon dont elle avait, par exemple, de prendre à la fin de nos émissions. Chaque fois, elle nous prenait les conducteurs, de voir comment on avait travaillé, jusqu'à ce qu'elle passe elle-même à l'antenne avec un naturel très désarmant et très rafraîchissant.
Une excellente voix.
Et une excellente voix, et qui ensuite a travaillé auprès de Marie Richeux, qui est avec nous ce soir pour ses nouvelles bagues.
Je voulais juste rajouter quelque
oui,
chose
Émilie Chaudet.
À propos de cette exigence de la rythmique que vous aviez. C'est que les auditeurs ne voient pas à quel point vous avez un regard de fou furieux.
Les yeux de fou.
Quand quelque chose d'imprévu se passe. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Serge Rezvani. Et du coup, oui, voilà, c'est ce regard que vous pouvez lancer parfois en régie quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais juste avant de vous détendre et de dire « Ah, mais en fait, c'était super ». Et je me souviens de Bruno Podalides qui était à la place de Claire Maillot, donc en face de vous et devant la régie, et qui vous a dit « Mais j'ai l'impression que vous allez me casser la gueule ». Ça donne une idée de votre regard et c'est un peu ce que je garde de vous aussi.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
La chronique du mercredi, c'était la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, rédacteur en chef des Inrocks. Et bien, ce sera
tout
la chronique
pleure,
de
tout le monde. Je préviens. Avancez les mouchoirs. Donc, on a beaucoup parlé du temps qui passait. Donc, j'ai choisi un film qui parle précisément du temps qui passe, mais aussi du temps qui revient et de l'assis temporel très très compliqué. C'est Terminator Genesis. Lorsqu'une émission se termine, c'est bien de faire venir un Terminator. Mais le titre est un oxymore. Et je sais que vous adorez les oxymores, Laurent. Terminator Genesis, quelque chose qui se termine, c'est toujours aussi la genèse d'une autre chose. Alors, le film est sorti mercredi, il marche plutôt bien, mais plutôt moins bien que Prof 2. Mais il est détesté en fait par les geeks et par les fans de la série qui s'agitent sur les réseaux sociaux pour dire que le film vraiment déshonore cette série initiée en 85 par James Cameron. Et moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai vraiment adoré le film. J'adore tous les Terminator d'ailleurs. Et celui-là, je le trouve magnifique. À un moment donné où le blockbuster américain, qui est un genre que j'affectionne, va pas très très bien, où il s'épuise un peu dans des films de super-héros très répétitifs et de moins en moins innovants, tout à coup, ces deux héros des années 80, deux vieux héros qui viennent apporter vraiment de fraîcheur au blockbuster spectaculaire hollywoodien, c'est d'un côté Mad Max et de l'autre côté Terminator, et ces deux films qui sont extrêmement complémentaires. Parce que Mad Max, c'est pour moi un très grand film sur l'état du monde, le monde dans lequel on vit d'un point de vue économique, sociétal, politique, et Terminator, c'est un très grand film sur l'état des images parmi lesquelles on vit. Et l'état des images, c'est l'objet de Terminator depuis le début, puisque les deux premiers Terminator, ils datent de 85 et 91, et donc ils ont pris acte de la révolution technologique fondamentale qui a bousculé Hollywood à ce moment-là, qui est l'invention des effets numériques. Et dès Terminator 2, Cameron invente d'un côté un robot mécanique qui est du côté du solide, du côté du vieux cinéma de prise de vue photographique, et de l'autre, et face à lui, il met un robot en métal liquide qui est du côté du virtuel, du numérique, des images informatiques. Et dès lors, le film ne va cesser de commenter cette espèce de mutation qui affecte les conditions de production de la série même. À cette problématique, ce film-là, il ajoute vraiment des développements assez inouïs, dont le plus beau pour moi. Et tout à coup, le vieux Terminator joué par Schwarzenegger tel qu'on le voit aujourd'hui, donc un peu tapé quand même, acteur septuagénaire, se retrouve face à un Terminator neuf qui est Schwarzenegger de 1984. Il y en a plusieurs dans le film et on a l'impression vraiment de voir Schwarzenegger aujourd'hui jouer face à Schwarzenegger en 84 qui est absolument identique. Et il y a le même coefficient de réalité aux deux images, au Schwarzenegger actuel et au Schwarzenegger virtuel, et on se dit que vraiment bientôt on pourra faire de nouveaux films avec Marilyn Monroe. C'est-à-dire que désormais l'effet spéciaux n'est pas du tout l'autre de la prise photographique et du corps humain, mais le lieu absolu où tout à coup les effets spéciaux peuvent réaliser des images qui sont identiques aux images photographiées, mais délestées de ce poids qu'est le corps humain biodégradable.
Je voulais remercier Jean-Marc Lalanne parce que les auditeurs ne le savent pas, mais ils le comprennent quand les invités sont là. C'est que les invités sont toujours sidérés de voir quelqu'un qui prend la parole sans notes, même s'il a un papier parce que les choses ont été écrites, sans notes, et qui peut comme ça dérouler avec une constance, avec une régularité, tout un développement. C'est quelque chose que moi-même, je suis incapable de faire.
Et c'est quelque chose c'est votre regard qui est mon prompteur, Laurent.
Ah, mais c'est ça. Alors tout s'explique. C'est magnifique. Archive.
Marguerite, c'est immortel. Dans 500 ans, on parlera encore de Marguerite Duras. Et ça l'agaçait qu'il y ait une autre Marguerite qui était Yourcenar.
Exactement.
Elle était très, très irritée. Et souvent, Marguerite est, comment dire, moi, elle me faisait rire terriblement, car je voyais tout d'elle. Je la regardais et je savais qu'elle allait me dire, bon, j'arrivais toujours, il y avait ses toilettes qui étaient bouchées. Elle me dit, ah, tu tombes bien. Pourquoi ? Mes toilettes sont bouchées. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Ben, je dis, oui, je vais les déboucher. Et j'ai débouché. Elle me dit, tu y es arrivé ? J'ai dit, ben oui, c'est normal. Ah bon. Et
quand je vous écoute, je l'entends, c'est dingue. C'était Gérard Depardieu, vous vous souvenez, Manu Farine. Il était venu, il n'avait absolument rien, pas de film, pas de pièce de théâtre.
Pas d'actualité.
Rien, pas d'actualité, il était venu pour venir avec un ami, qui était à ce moment-là...
C'est Jean-Claude Clerpita, non ?
Oui, exactement. Il était venu, il nous avait
directeur
parlé...
De...
Directeur qui
de
était
à Montpellier.
À l'époque, oui, et il nous avait
parlé... Vous avez dit, je vais venir avec un ami.
Avec un ami.
Et Gérard Depardieu.
Mais on ne sait pas, on verra s'il arrive. Et puis Gérard Depardieu est arrivé. Et
avec son casque de scooter.
Un moment exceptionnel, et notamment sur Marguerite Duras, parce que je crois que Marguerite Duras a été le nom le plus prononcé par nos invités. Et par
avec Jacques Demy.
Oui. Avec Jacques Demy, mais ça c'était à cause de Jean-Marc Lalanne.
Puisqu'on parle de passage du temps, il y a un moment qui était magnifique et que seules les personnes qui étaient dans le studio ont pu voir, c'est que Gérard Depardieu a rajeuni de 30 ans pendant l'interview. C'est-à-dire que vous voyez rentrer Gérard Depardieu tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec son casque de scooter, qui est un gros homme, et qui est devenu le Gérard Depardieu du dernier métro, voire un petit peu plus jeune, pendant l'interview, extrêmement séducteur, et tout le monde est ressorti, et il est sorti du studio, on était tous amoureux de Gérard Depardieu. C'était magnifique.
Merci, vous avez peut-être des réactions de la part de nos invités. Je ne sais pas, je les regarde. Pourquoi faut-il que dans vos romans se joue toujours la séparation du mâle et du femelle ? C'est pas vrai. Fond des yeux. Émilie Chaudet, merci Benoît.
De rien.
Laurent. J'imagine. On se retrouve demain ?
Volontiers.
Une insulte, qu'est-ce que ça dit du programme ?
Ouais.
Anne Farine. Eh bien, à propos de scène, on ouvre avec la scène d'ouverture. C'est vous. C'est pas vrai.
Ouais.
Mathieu Conquet, sa programmation.
Mais vous m'apprenez quelque chose.
Bienvenue à France Culture.
Merci beaucoup.
Lucille Gomeau.
Je reviens à ce dispositif. Dispositif.
Qu'est-ce qui se joue entre les deux ?
Dispositif, dispositif.
Et voilà. Bah, c'est super. Eh bien, bravo. Merci. Ça, voilà. Ça devrait être tous les soirs comme ça. Eh bien, merci à tous pour l'esprit d'équipe qui a animé ce rendez-vous de 7 ans avec les spécialités locales de chacun, les dispositifs de Manu Farine ou quelle est la première erreur que vous ayez été faite, les points de vue définitifs de Lucille Gomeau pour qui, je cite, David Bowie, c'est rien. Et c'est son anniversaire ce soir. Et je crois qu'elle nous écoute. Bon anniversaire! Les Toulouse Zaneries de Benoît Lagane qui m'a interdit de dire le GER. Pendant des années, on dit le GER.
Le
vestiaire très spécial de Zoé Spez. Elle a d'autres qualités. Les enfants de Xavier Delaporte que l'on a vu enfin. Les obsessions Jacques Demy de Jean-Marc Lalanne. Le ton un peu radio-courtoisie quelquefois de Thomas Clair. Et l'ambiance très shogun que Thomas Beau a imprimé à nos rendez-vous. La désannonce, Laura Adler.
C'était le dernier rendez-vous de Laurent Goumard. Et comme chaque soir en direct, cette émission était soigneusement préparée par Aïssa Toundoy et Elsa Béranger. Vous avez pu entendre les voix de Manu Farine, Benoît Lagane, Émilie Chaudet, Lucille Gomeau, Claire Maillot. Session live, programmation de Mathieu Conquet. Les chroniques étaient signées Thomas Clair, Jean-Marc Lalanne, Xavier Delaporte, Anne Boulay, Catel Pouliquen. Journal de la Culture, Raphaël Bourgois, Xavier Martinet, Zoé Sfèze et le Je vous raconte de Benoît Lagane. Et à la réalisation, Thomas Beau, le bien nommé, et son étoile, Nicolas Berger.
Supplément Elsa.
Et à la technique ce soir, Jacques Hubert et Yanis Djoudad, et sans oublier le générique du professeur Inlassable.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Aujourd'hui c'est la qui
c'est super
mortel. Allez, allez, attends-nous. La relève peut arriver d'un instant à l'autre.
Ah, c'est trop mortel.
Pensez-vous que nous soyons tenus de mettre de l'ordre?
Qu'est-ce qu'on s'en fout parce qu'on s'en va?
Demain, on peut quand même attendre lundi avec en lieu et place du rendez-vous l'Euroforum Philo Le Monde Le Mans. Ça va nous changer. Les bras m'en tombent, les mots me manquent. Tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Merci de nous avoir tous écoutés pendant 7 ans. Merci à tous. Bon week-end, bonnes vacances. À bientôt.